talmudique. Posons-nous une question sérieuse, une question urgente, une question responsable. Qu'est-il nécessaire aujourd'hui de faire connaître et de transmettre ? Les réponses sont nombreuses et méritent sans doute d'être précédées par de grands, longs et profonds débats. Mais je pense à cet aphorisme que l'on attribue au Baal Shem Tov, le maître du bon nom, fondateur du chassidisme. C'est dans le souvenir que réside le secret de la rédemption, que l'on peut aussi entendre, me semble-t-il, de la façon suivante. C'est dans le souvenir du secret que réside la rédemption. Il existerait une pensée discrète qui chemine à l'ombre des sous-bois de l'intelligence, hors de l'ouvert et de la clarté des grandes avenues du savoir et des programmes. Il y aurait une littérature balbutiée, une philosophie murmurée, une théologie chuchotée, des œuvres non pas faites seulement pour leur présent, mais aussi pour l'avenir, pour qu'il y ait de l'avenir. J'aime à penser que l'œuvre de Gershom Scholem fait partie de ces œuvres murmurées qui nous appellent et nous invitent à la faire connaître et à la transmettre avec cette lucidité d'esprit qu'il en va sans grandiloquence du cours du monde lui-même. Et sans doute pourra-t-on s'en faire une idée en découvrant le dernier cours qu'il donna en 1965 à l'Université hébraïque de Jérusalem et que les éditions de l'Éclat ont eu la très bonne idée de faire paraître ces jours-ci sous son titre original « La Kabbale du livre de l'image » et d'Abraham Aboulafia. 300 pages de pur bonheur et de transcendance joyeuse qui nous font découvrir à la fois le chercheur, le penseur, l'enseignant et l'homme passionné que fut Gershom Scholem, qui laissa une œuvre immense dans le domaine de la mystique juive et de la Kabbale et dont la publication, volume après volume, comme disent ses éditeurs, n'épuise pas le secret. Michel Valensi, bonjour.
Bonjour.
Michel Valensi, depuis que vous avez créé avec Patricia Farazzi cette belle maison d'édition, les éditions de l'Éclat, vous n'avez eu de cesse de faire connaître l'œuvre de Gershom Scholem. Pourquoi cet attachement particulier à cette œuvre? En quoi est-elle si importante et peut-être si urgente pour notre temps?
C'est vrai qu'on a commencé à publier des textes de Gershom Scholem assez tôt, en tout cas dans le cours du travail éditorial qui a commencé en 1985, donc ça fait quand même déjà un bail, comme on dit. Scholem a cette particularité d'avoir à la fois une œuvre historique, mais aussi profondément philosophique et également politique. Et je crois que c'est dans cette dialectique entre la politique, la philosophie et l'histoire qu'apparaît comme ça toute la puissance de son œuvre. Le premier volume qu'on avait fait paraître s'appelait Le Prix d'Israël, qui était un ensemble de textes politiques, donc depuis la lettre aux sionistes d'Allemagne en 1917 jusqu'à un texte de 1974 sur qui est juif. Question à laquelle il répondait, c'est la décision individuelle d'être juif qui fait qu'on est juif, ce qui est quand même pas très orthodoxe. Avec ce cours sur Aboulafia, on a voulu en fait faire deux choses. D'abord, poursuivre le travail d'édition et de réflexion autour de ce personnage extraordinaire qui est Abraham Aboulafia, mais aussi pointer une dimension qui est assez peu connue finalement de Scholem, qui est ce Scholem enseignant, le Scholem qui transmet un savoir, qui transmet une connaissance. On a là un matériau vraiment unique dans ces polycopiés qui avaient été publiés, enfin qui avaient été transmis comme ça à l'époque au sein de l'Université hébraïque de Jérusalem, où les cours étaient donc retranscrits et polycopiés. Là, il s'agissait d'un polycopié qui a été édité par Joseph Ben Shlomo, mais sur lequel Scholem avait bien entendu non seulement gardé un œil, mais aussi fait un certain nombre d'amendements et de corrections. Et on a de plus, et ça a été vraiment une découverte assez extraordinaire alors que la traduction était quasiment terminée, grâce à un jeune chercheur qui est Jonathan Meyer qui travaille en Israël sur Scholem et qui a publié aussi d'autres cours de Scholem en hébreu, on a découvert une malle qui n'était pas encore archivée dans les archives Scholem, mais qui concernait ce cours sur Aboulafia, dans lequel, en fait, on a retrouvé tous les documents qui avaient servi à Joseph Ben Shlomo pour établir le texte de ce cours. Et donc, des petites notes manuscrites, etc., dont on a voulu aussi essayer de témoigner à travers quelques notes complémentaires de la traduction faite par Sabine Ansel Amsalem, qui, elle, vit à Jérusalem.
Alors c'est un cours qui est exceptionnel, vous l'avez dit, transcrit par Yosef Ben Shlomo, devenu à son tour un célèbre professeur spécialiste de philosophie, la Kabbale. Oui. Ce cours est exceptionnel parce que, je dirais, après coup, il est même émouvant, car il est comme son testament universitaire, le point ultime et final, la quintessence de sa carrière universitaire, même si sans doute il savait intuitivement qu'il publierait encore de nombreux ouvrages. C'est le dernier cours.
C'est le dernier cours. Effectivement, il achève sa carrière universitaire avec ce cours sur le Sefer HaTmouna, donc le livre de l'image ou le livre de la figure.
Justement, je vais vous poser tout de suite la question. Oui.
Et sur Abraham Oulafia. C'est effectivement un point d'orgue, voilà, appelons-le. Enfin, c'est un point de suspension finalement du point de vue de sa carrière universitaire. Il faut aussi dire, et c'est ce que dit Saverio Campanini dans sa préface, c'est aussi un point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, le jeune Scholem qui fait d'abord des études de mathématiques et qui suit les cours de Frege, enfin. Quand on imagine Scholem suivant les cours de Frege en logique mathématique et qu'il va finalement s'orienter plutôt vers les études de mystique juive, se rend à Munich où il découvre les manuscrits d'Aboulafia. On est en 1919, je crois, à ce moment-là. Et cette lecture des manuscrits d'Aboulafia, enfin quand on connaît un peu les textes d'Aboulafia, on peut imaginer l'effet que ça peut faire sur un homme comme Scholem de découvrir ces manuscrits, enfin, quasi pour la première fois. Il y avait eu effectivement d'autres études qui avaient été faites, mais très peu. Scholem parle véritablement d'un bouleversement de sa conscience. Tout son travail sur la mystique juive, on peut dire qu'il prend naissance avec cette découverte. Et Aboulafia va être comme ça une sorte de basse continue de son travail de chercheur, de sourdine permanente, sans qu'il y ait véritablement un livre sur Aboulafia, ce qu'il aurait voulu faire à plusieurs reprises dans ses correspondances, il évoque, mais il mènera pas ce projet à terme. Finalement, le livre, ce sont ses cours. Et c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à ce qu'il paraisse, pour aussi rétablir un peu la chronologie de la découverte d'Aboulafia dans les études juives, qu'il faut dater, à mon avis, plutôt de ses cours de 64-65.
Alors, on va le découvrir ensemble. C'est une année universitaire qui est dense, deux trimestres. Le premier consacré au livre de l'image, Sefer HaTmouna, en hébreu, dont l'auteur est anonyme, un auteur du XIIIe siècle. Et le second trimestre sera consacré à la pensée d'Abraham Aboulafia. On vient d'en parler aussi. Des doctrines mystiques formulées toutes deux au cœur du XIIIe siècle. Le livre de l'image, c'est un beau titre, mais de quelle image s'agit-il, Michel Valency?
C'est un livre sur ce qu'on appelle les cycles cosmiques, c'est-à-dire sur la partition du temps, le rythme du temps. Comment le temps, la temporalité est organisée, est rythmée. Et donc, le livre est construit sur ces différents cycles qui correspondent aussi au cycle de la semaine. La particularité de ce texte-là et d'Abraham Aboulafia, enfin, c'est ce qu'on a voulu signaler dans la quatrième de couverture, c'est que, au XIIIe siècle, on a donc un judaïsme rabbinique, qui est la halakha, qui est la voie droite, on pourrait dire.
La loi, quoi, oui. Hein.
À côté de ce judaïsme rabbinique va se développer, enfin, la mise en place du Zohar, qui sera déjà un pas de côté par rapport au judaïsme rabbinique. Donc, Zohar, grand texte de la mystique juive, dont la première édition sera publiée avant tout au XVIe siècle. Et finalement, le Zohar va s'imposer comme une sorte de marge, mais déjà officielle.
C'est ça, canonique.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Scholem, lui, va s'intéresser à ce qui est aux marges de la marge. C'est-à-dire que, alors que le Zohar se mettait en forme, se sont développés des courants. Le courant aboulafien en est un, et il a une importance extraordinaire. De même que ces écrits anonymes dont le Sefer HaTmouna fait partie. Et cette idée donc de marge de la marge, moi me semble aussi typique de ce que peut rechercher Scholem pour donner une explication du monde.
Dans ce livre de Temuna, qui est peut-être moins à la marge, mais qui est quand même à la marge, il y a cet énoncé d'une doctrine des cycles cosmiques, comme vous venez de le rappeler, qui repose, dit Scholem, sur une philosophie de l'histoire et l'évolution du monde empreinte d'utopie.
La chose étonnante dans le Sefer HaTmouna, c'est aussi peut-être une manière, c'est peut-être la lecture en tout cas qu'en donne Scholem, c'est cette idée des cycles cosmiques qui correspondent aux différentes séphirotes. Une chose, moi, m'a frappé à la lecture donc du texte, c'est cette idée que nous vivons actuellement dans un cycle qui est le cycle de la rigueur. Et Scholem le dit à plusieurs reprises dans son cours, ce cycle de la rigueur est quand même le pire qui soit. La dureté de la vie à laquelle on est confronté, et Scholem le répète cette idée-là, on est vraiment dans un cycle de la loi, le din, en fait le cycle du din, qui est cycle de la loi et de la rigueur, et ce cycle qui va ouvrir sur un autre cycle qui est celui des rachamim. Et le terme rachamim est un terme extraordinaire, puisqu'il est traduit classiquement, il est traduit par miséricorde, mais on est très très loin de la miséricorde, parce que les rachamim sont donc les entrailles. Et la traduction qui a été adoptée par Sabine Msalem provient d'un travail qui avait été fait il y a assez longtemps par un autre de nos amis et traducteurs des éditions de l'Éclair, malheureusement disparu, qui est Michel Attali, qui avait proposé comme traduction du terme rachamim les tendresses. Les tendresses, parce que c'est aussi les entrailles maternelles, si vous voulez, il y a cette tendresse. Et donc ce cycle des tendresses est un cycle à ce moment-là, c'est un cycle où on assiste à la réconciliation, où on assiste à la communauté, et là, à cette utopie dont vous parlez.
Il y aurait trois cycles, selon le livre de l'image, le cycle du chesed, de la bonté, le cycle du din, de la rigueur, dont vous venez de parler, et puis, et c'est ça qui, je pense, est tout à fait original, le cycle des tendresses. J'aime vraiment beaucoup cette traduction, et j'ai eu l'intuition justement qu'elle était de Michel Attali, dont j'avais lu son livre qui s'appelait Le Portail des Cieux, de Rabbi Abraham Cohen Herrera, qui est un chef-d'œuvre absolu, et qui est très espérantiel, c'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes dans un monde de la rigueur, mais ça donne à espérer que on va arriver dans quelque chose de beaucoup plus tendre, justement.
Exactement. Et c'est vrai que cette dimension-là est pointée par Scholem de manière assez extraordinaire dans la lecture de ce, dans le cours du premier trimestre, effectivement, consacré au Sefer HaTmouna.
ליל שימורים, אותו אל חצה כחצות לילה בתוך מצרים כיצא. גיבור על אדום יחצנו כחצה. דוד מעריב ערב ונזמרנו בנפש חפצה. La nuit de Pessah, je la veux partir. Les Mitzrim tués et ces Juifs garantis.
Thank you.
Nous venons d'entendre une musique juive du XIIIe siècle tirée d'un disque intitulé « Juifs trouvères » édité par l'excellent Institut européen des musiques juives que dirigent Hervé et Jacqueline Rotten. Ce XIIIe siècle où est écrit le livre de l'image et aussi le siècle où se développe la pensée de Rabbi Abraham Aboulafia qui constitue la seconde partie de ce cours de Kabbale donné par Gershom Scholem en 1965 à l'Université hébraïque de Jérusalem et que vous venez de publier, Michel Valency, sous le titre « La Kabbale du livre de l'image et d'Abraham Aboulafia ». Aboulafia est un personnage particulièrement attachant, car contrairement aux maîtres de la Kabbale de cette époque, nous avons beaucoup d'informations sur sa biographie, dont il a parsemé lui-même son œuvre. Michel Valency.
Oui, effectivement, c'est un des aspects de son œuvre les plus étonnants, bien que le reste soit encore plus étonnant que sa propre vie. C'est vrai que Aboulafia, c'est contrairement aux autres kabbalistes, s'est livré son intimité, à parler de lui dans ses textes. On sait l'enfance qu'il a pu mener à Saragosse, son départ vers Tudèle, puis on sait ensuite toutes ses pérégrinations à travers dans le bassin méditerranéen, en Grèce, il va aller jusqu'à Saint-Jean d'Acre, où là, à la recherche du fleuve Sambation, il fera marche arrière à cause des guerres qui ont lieu à cet endroit-là. On connaît son aventure extraordinaire avec le pape, cette rencontre avec le pape qui lui donne ce statut de messie, et aussi ses démêlés avec l'institution juive, quoi. C'est enfin l'institution du judaïsme à l'époque. C'est vraiment quelqu'un qui est, qui a été excommunié, qui est une sorte de
paria. C'est vraiment l'outsider dont vous avez parlé. C'est la marge.
Exactement. La marge. Oui, c'est un marginal et c'est un marginal. Disons que ce qu'on peut se dire, c'est que si l'œuvre d'Aboulafia avait pu avoir, ne serait-ce qu'être publiée d'abord, puisque il y a très peu d'éditions de textes d'Aboulafia. Enfin, en Israël, depuis quelques années, Amnon Gross a mené une édition un peu rapide des manuscrits. Mais c'est vrai qu'il y a eu très tardivement. On connaît très peu de textes d'Aboulafia. On avait publié, nous, en 85, la traduction française « L'épître des sept voix », qui avait été traduit par Jean-Christophe Attias. Le livre est complété par une vie imaginaire d'Abraham Aboulafia, écrite par Patricia Faradzi, qui d'ailleurs nous avait, enfin, c'est elle qui nous avait proposé la publication de cet ouvrage à l'époque quand on créait la maison d'édition. Et si cette œuvre-là avait pu être connue dès le moment de son écriture, je pense qu'on aurait une vision, enfin, un judaïsme différent. Pourquoi ? Parce que toute l'œuvre d'Aboulafia consiste à, non pas concilier, mais à réconcilier le rationalisme de Maïmonide et la pensée mystique. Et ça, on en est encore là, si vous voulez. On en est encore à une scission entre ces univers. Aboulafia, par un jeu de langage, en fait, par un travail sur la langue, parce que c'est un extraordinaire linguiste. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille essentiellement sur la langue. Toute son œuvre est construite sur une étude de la langue elle-même. Et à travers ce travail sur la langue, il propose une véritable réconciliation et une véritable, enfin, c'est une lecture mystique de Maïmonide. Et là, on a tout ce qui a été, et c'est normal que Scholem allait rencontrer Aboulafia, parce que toute l'œuvre de Scholem est aussi conçue sur ces rencontres. Le grand texte de Bialik, Halakha et Agada, Scholem en fait une traduction, alors que c'est un tout jeune homme qui va apparaître en allemand dans la revue de Buber, Der Jude, et que d'ailleurs on a publié il y a quelques années en français dans une belle traduction de Jean Getzel.
Et vous avez reçu pour cela.
Que voilà, qui est possible. Oui, effectivement, j'étais venu en parler. Jean Getzel se promenait à l'époque. Et donc chez Scholem, il y a toujours cette volonté de réconciliation dialectique des contraires. Et donc, oui, Halakha Agada,
Mysticisme et rationalisme.
Et même dans le domaine politique, Scholem se définissait comme un anarchiste, par exemple. C'est un anarchiste qui a voulu construire un ciel pour la terre d'Israël. Il était aussi sioniste. Enfin, il était même un grand sioniste. Un sioniste avec toute la dimension utopique aussi de ce terme. Et Aboulafia était aussi, prônait aussi ce type de réconciliation. Et là, la rencontre était donc
presque évidente. Alors moi, je dirais que comprendre Aboulafia, ce n'est pas seulement comprendre les méthodes et les techniques mystiques qu'il utilise, mais pourquoi il les utilise. Et c'est là que se joue la différence entre Aboulafia et Maïmonide. C'est le point central de sa théorie qu'il nomme théorie des nœuds à détacher ou encore le dénouement des sceaux noués. Scholem écrit « La différence entre Aboulafia et Maïmonide porte sur la façon d'ouvrir la lucarne par laquelle l'âme s'unit au flux de l'intellect agent. Pour Aboulafia, cette ouverture doit s'effectuer au moyen des techniques de permutation. Il innove, dit Scholem, une théorie, celle de la science combinatoire. » Michel Valency.
Effectivement, c'est tout un travail sur le langage, cette idée des flux, enfin cette idée des flux. D'ailleurs, la théorie des flux, très curieusement, est une théorie révolutionnaire aujourd'hui, enfin qu'on considère comme révolutionnaire. Ce qu'il faut, c'est canaliser ces flux. Et chez Aboulafia, effectivement, cette possibilité de canaliser les flux se fait à travers le langage, à travers la prononciation, à travers la méditation sur les lettres, la méditation sur les sons, etc. Il y a de magnifiques pages sur la situation dans laquelle doit se mettre celui qui veut justement méditer sur le nom, se vêtir de blanc, être dans une situation de paix intérieure et extérieure absolue. Enfin, c'est vraiment de très 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 belles pages. Alors, c'est sûr que ce qui est décrit par Aboulafia rejoint d'autres théories de la méditation. Et ça c'est important que Scholem le dise. Enfin, Scholem montre à quel point ces théories là avait une circulation dans le XIIIe siècle, dans cette époque, qui était une circulation bien plus large que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'il y a, véritablement une relation avec ce qu'on a pu appeler, avec le yoga, avec la pensée hindoue, avec la mystique musulmane aussi, le soufisme. Et alors, bon, Scholem il ne résout pas la question, il dit pas, il y a influence, il parle d'une coïncidence ou de concomitance des pratiques et des pensées. Et je crois que ce qui est très extraordinaire, c'est de penser qu'à une période où effectivement, quand on voulait communiquer entre une personne et une autre, les lettres mettaient quelquefois une ou deux générations pour parvenir. Je connais cette anecdote de rabbins de Kairouan qui vont interroger des rabbins d'Eretz Israël sur une question de halakha, et la réponse ne revient que quand les enfants de ces rabbins sont là pour l'entendre. Et donc cette communication et cette circulation des idées a quelque chose d'assez extraordinaire et qui laisse rêveur, quoi.
Alors ça laisse rêveur, mais ce qui laisse rêveur aussi surtout, c'est cette théorie sur laquelle je vous réinterroge, parce qu'elle est très importante. C'est ne serait-ce que dans la formulation, c'est très beau, c'est l'art de dénouer les nœuds. Et j'ai l'impression que dans ces deux leçons, celle du 10 février et du 17 février 1965, il m'a semblé en tout cas que le professeur d'histoire de la Kabbale, Scholem, sort un petit peu de sa dimension professorale pour devenir lui-même un véritable maître de cette science. Et nous avons l'impression d'assister, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu il y a quelques déjà 20 ans ou 30 ans, quand j'ai eu la chance de lire ce texte dans sa version polycopiée, on assiste à une véritable révélation. C'est une révélation, la pensée d'Aboulafia, c'est, me semble-t-il, cette idée que il y a ce que Maïmonide appelait l'intellect agent, c'est-à-dire une sorte de flux cosmique, on parle de flux. Alors aujourd'hui, les mots sont un peu teintés comme par une sorte de sonorité New Age, mais dans la pensée de Scholem, c'est quelque chose tout simplement de classique et de mystique. Il y a un influx divin qui arrive dans le monde, qui fait exister chaque chose, mais parfois, cet influx peut pas traverser l'homme, par exemple, parce qu'il y a des nœuds qui empêchent cet influx de le traverser. Et l'art serait de dénouer ces nœuds. Et la technique, et c'est là où se joue toute la différence entre Maïmonide et Aboulafia. Maïmonide va dénouer ses nœuds par des méthodes, on va dire, philosophiques, alors que Aboulafia
est logique, et
Aboulafia par des méthodes, je dirais, mystiques, et en particulier quelque chose qui va avoir un succès extraordinaire dans la suite du judaïsme et en particulier dans le chassidisme, cette idée du tserouf, c'est-à-dire l'idée de la permutation des lettres.
C'est vrai qu'il y a aussi une influence de la mystique rénale. Hanan, enfin des Hasidei Ashkenaz, sur la pensée d'Abou Lafia, puisque enfin c'est là aussi où enfin le texte de Cholem est intéressant. Il montre comment déjà à l'école de Gérone, on a des contacts avec ces maîtres de Hanani.
Alors cette science combinatoire, elle est très étonnante parce que elle est très particulière à la langue hébraïque. On prend n'importe quel mot de trois lettres. Et tout à coup, le sens n'est pas enfermé dans ces trois lettres, mais dans l'ensemble des permutations possibles de
Absolument,
ces trois lettres.
Oui.
C'est-à-dire, il y a au moins six possibilités.
J'ai pu consulter, enfin parce qu'on est en train, enfin on en parlera peut-être à une autre occasion, mais on est en train de préparer une édition d'un texte d'Abou Lafia, puisqu'il y a eu enfin assez peu de textes publiés, et il est étonnant de voir que dans les manuscrits, bon c'est pas des manuscrits autographes, mais en tout cas c'est des reprises de manuscrits qui ont pu être, enfin qui sont perdus, mais donc on a un texte hébraïque, et puis sur certains termes, chacune des lettres est à un point par-dessus, qui signifie que ce texte, enfin ce terme-là ne doit pas être lu selon le sens des lettres, mais exclusivement selon une relation de gématria.
Donc, alors ça, ce qui est encore un autre procédé.
Oui, c'est un autre
procédé.
Mais
c'est important de souligner parce
voilà,
que en français, c'est la même chose. La gématria, je me permets de le dire,
mais
parce
ça,
que
vous
je pense que c'est très
certainement beaucoup plus que moi.
Non, mais c'est la gématria, c'est le fait que chaque lettre a une valeur numérique.
Oui.
Et donc, ça permet de faire des équivalences entre des mots qui n'ont strictement rien à voir, mais comme elles ont la même valeur numérique, on les met en relation. Et ça, c'est d'une nouveauté et d'une audace. On peut dire intellectuel extraordinaire.
De la même manière, la permutation. Enfin, je veux dire que les différentes techniques de travail sur le langage, que ce soit la technique de la gématria, d'une tarikone ou de la permutation, sont des techniques qui décuplent le sens des textes. Et je crois que c'est ça qui est extraordinaire chez Abou Lafia. À la fois c'est extraordinaire, à la fois c'est d'une complexité qu'on n'arrive même pas à imaginer. C'est-à-dire que quand on est confronté aujourd'hui à des textes comme celui-là. Bon, dans le volume de Cholem, Cholem avait à la fin du cours, il y a 34 extraits d'œuvres d'Abou Lafia. Il avait été question de n'en publier qu'une partie, et puis c'était inacceptable. Enfin, je veux dire, du point de vue d'éditeur, c'est inacceptable. Il fallait tout donner, y compris un texte qui s'appelle Les Clés de la Kabbalah, Maftechot HaKabbalah, qui est un texte du maître d'Abou Lafia, Baruch Togarmi, qui est un texte d'une complexité où pratiquement tous les termes sont des termes sur lesquels une gématria est possible, et non seulement possible, mais indispensable pour la compréhension. Et donc, on a donné, enfin Sabine Amsalem a fait une traduction de ce texte et des notes sur les gématriotes possibles du texte que donnait Cholem lui-même. Et on a voulu donner quand même ce texte sous cette forme-là, cette forme brute, mais c'est inimaginable de penser qu'à cette époque-là, il y avait un niveau d'intelligence des lettres, de rapidité finalement dans la lecture et dans le jeu de langage, qu'aujourd'hui on ne peut concevoir qu'à l'aide de 58 ordinateurs, si vous voulez. 58, il y a peut-être un...
C'est noir,
voilà.
C'est Noé. Alors, ce que vous dites est extraordinaire, et je crois que ça, il faut le souligner, il y a, au détour d'une page, il y a une parenthèse qui est peut-être révolutionnaire dans l'œuvre de Cholem, c'est qu'il dit, je pense que l'ensemble de ces méthodes d'Abou Lafia, que ça soit la valeur numérique, que ça soit la permutation des lettres, c'est les processus de l'inconscient. Et donc, il est en train de dire que la Kabbale met ou souligne l'existence de deux logiques. Il y aurait une logique consciente, et qui est celle de la philosophie, que Maïmonide a utilisée. Mais il y a une autre logique, et c'est comme s'il faisait la découverte de l'inconscient, une logique de l'inconscient. Et on s'aperçoit en fait que toutes ces méthodes que Abou Lafia va découvrir, c'est les méthodes qu'on va redécouvrir dans l'interprétation des rêves chez Freud,
exactement,
par exemple.
Oui, oui,
et donc la modernité est inouïe.
Présent. Non, mais ça, dans l'œuvre d'Abou Lafia, on a une théorie du langage qui est aussi effectivement une théorie de l'inconscient. Cholem est toujours au bord de cette modernité. Qu'il s'agisse de la pensée de son communiste, de son ami Walter Benjamin, ou qu'il s'agisse de la psychanalyse de Freud,
ou de Jung parfois.
Comment ?
Ou de Jung.
Ou de
parfois.
Jung, effectivement, oui, parce qu'il a été assez proche aussi des cercles jungiens. Mais il ne fera jamais le. Enfin, dans son texte, en tout cas, il propose et il ne bascule pas dans le. Dans la démonstration. Il y a peut-être de la psychanalyse dans l'œuvre d'Abou Lafia, mais il ne va jamais jusqu'à prononcer le terme de pionnier. Je crois qu'il est, enfin, il lui donne une dimension beaucoup plus large en fait.
Beaucoup de modestie de la part de Scholem. J'utilisais le terme de théologie murmurée, qui est en fait une expression que Moses a utilisé
effectivement.
Il l'utilise quand même avec, pour dire que c'est une hypothèse, entre parenthèses, il dit ce que j'appellerais l'inconscient. Je crois qu'il y a quelque chose de, d'un ridouche, d'une nouveauté qu'il faut entendre.
Non, effectivement, c'est un.
Merci Michel Valency pour ce voyage au cœur de la pensée logique et de la pensée différente. Merci pour ce voyage dans les marges et dans les marges des marges. Merci de nous avoir initié et fait découvrir cet art des nœuds à détacher dont je crois qu'on ne mesure pas encore toute la force révolutionnaire, mais que le livre que vous venez d'éditer et dont je rappelle le titre, La Kabbale du livre de l'image et d'Abraham Abou Lafia aux éditions de l'Éclat, permettra d'approfondir. Je souligne aussi la très belle traduction de Sabine Amselem. Un vrai régal, ce livre pour l'âme et l'intelligence. Merci encore Michel Valency.
Merci à vous, merci de votre accueil.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin. À la prise de son aujourd'hui, Lidouine Caron. À la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau. Coltouv, les Traottes, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.